Bonjour, que dire sur le harcèlement sexuel dans le milieu politique? Quand le dire? Est-ce qu'il faut donner des détails ou pas? Est-ce qu'il faut donner les noms des harceleurs ou ne pas les donner? Et quand on est soi-même journaliste et harcelé, est-ce qu'il faut signer de son nom, par exemple, des tribunes de protestation? Toutes ces questions qui se posent aux victimes, quasiment dans les mêmes termes d'ailleurs que ces victimes soient militantes politiques ou journalistes, ont ressurgi à l'occasion de l'affaire Denis Baupin. Ce vice-président écologiste de l'Assemblée nationale démit de ses fonctions après les révélations d'une enquête conjointe de Mediapart et de France Inter. Que dire, quand le dire, donner des détails, pas de détails, ce sera le thème de notre plateau d'aujourd'hui, Justine.
Oui, avec trois invités. Lénaïque Bredoux, vous êtes journaliste politique à Mediapart. Vous êtes à l'origine de ce qu'on appelle maintenant l'affaire Baupin, puisque c'est vous qui avez recueilli, avec Cyril Graziani de France Inter, des témoignages sur des faits pouvant être qualifiés d'agression et de harcèlement sexuel attribués donc à Denis Baupin. Votre enquête a été donc publiée le 9 mai. Vanessa Jérôme, vous êtes politiste. Vos travaux portent notamment sur Europe Écologie Les Verts et ses militants. Dans le cadre de vos recherches, vous avez eu connaissance de rumeurs concernant Denis Baupin. Vous nous expliquerez ce que vous saviez à l'époque, ce que vous avez choisi d'en dire ou non, et plus largement, comment comprendre les silences autour de ce type de cas. Et puis avec nous par Skype, en vidéo, Dominique Trichet-Allaire, vous êtes présidente de la commission féminisme d'Europe Écologie Les Verts, et vous avez été parmi les premières à prendre la parole au sein de votre parti pour dénoncer l'existence d'agressions sexuelles. Vous nous expliquerez dans quelles circonstances et comment les médias ont joué un rôle dans votre décision.
Voilà, mais peut-être pour commencer, comme chaque semaine, un petit rappel des faits et donc de cette affaire Baupin.
Oui, en tout cas de son aspect médiatique, son aspect émergé. Ça concerne donc le député de Paris, Denis Baupin, qui a récemment quitté Europe Écologie Les Verts. Et donc l'aspect public de cette affaire débute le 9 mai avec la publication de votre enquête, conjointe donc avec France Inter, où, je le disais, vous rapportez des faits pouvant être qualifiés d'agression et de harcèlement sexuel attribués à Denis Baupin. Vous recueillez en fait 8 témoignages, dont 4 anonymes, dont 4 à visage découvert. Ils concernent pour certains des faits qui remontent à 1998. Alors, à la suite de la publication de votre enquête, Baupin a fait savoir qu'il contestait vos révélations, mais a renoncé à ses fonctions de vice-président de l'Assemblée nationale. Le lendemain de la publication, le 10 mai, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur ces faits. Alors, la particularité de ce que vous avez sorti avec France Inter, c'est donc le fait qu'il y ait beaucoup de victimes qui parlent à visage découvert, sous leur nom. Elles s'appellent Sandrine Rousseau, Hélène Debost, Isabelle Attard, Annie Lamère. Elles sont porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, adjointe à la jeunesse à la mairie du Mans, députée, conseillère régionale d'Île-de-France. On écoute quelques-uns de leurs témoignages dans les médias ces derniers jours.
Sandrine Rousseau décrit une scène survenue en 2011 lors d'une réunion à Montreuil.
Je suis sortie et dans le couloir qui longeait la salle de réunion, Denis Baupin m'a attrapée, a essayé de m'embrasser de force et je l'ai repoussée violemment.
Elle en parle alors à un cadre et à des amis du parti qui l'incitent à tourner la page.
Clairement, j'avais peur que ma parole soit décrédibilisée, discréditée, que j'avais peur d'être celle par qui les ennuis arrivent.
Et j'ai reçu un après-midi au travail un appel de Denis Baupin que j'avais croisé au préalable pendant la campagne de la primaire pour Nicolas Hulot et qui m'a demandé de le soutenir en fait sur cette période de cette époque de désignation interne dans la motion. J'ai accepté de le soutenir et quelques heures plus tard, les premiers SMS ont commencé. On est vraiment dans une avance de séduction intensive et crue dès le premier message.
Voire particulièrement...
Pas la toute première, le tout premier, voilà. Il est clair et explicite mais il n'est pas encore obscène ou graveleux. Mais il est explicite, hein. Donc j'ai immédiatement répondu que j'étais pas du tout intéressée, que j'aimais quelqu'un à ce moment-là, que j'avais beaucoup de respect pour sa compagne et pas du tout intéressée par ce type de relation, et voilà, j'étais pas intéressée. Et les SMS ont commencé, enfin voilà, et ça a duré pendant 4 à 6 mois, et il y en a eu quasiment une centaine, je crois.
Alors, petite question de cuisine journalistique, on va dire, pour commencer, sur la manière dont vous avez mené votre enquête, vous avez procédé. Alors déjà, sur ce fait d'enquêter à deux médias avec France Inter, c'est pas votre habitude chez Mediapart, où vous aimez bien en général travailler en solo. Pourquoi vous mettre à deux?
En fait, c'est le hasard qui a fait les choses, tout simplement. Moi, j'avais eu des premières alertes
sur le cas de Denis Baupin il y a déjà de très longs mois. J'avais déjà eu un premier témoignage il y a un an. Et puis l'enquête n'avait pas abouti. Et en fait, ça s'est retrouvé au début mars quand il y a eu donc une photo hein, qui est maintenant
beaucoup circulée.
Voilà, pour en solidarité avec les femmes pour la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, où Denis Baupin met du rouge à lèvres. Voilà, voilà. La photo où il y a plusieurs députés, dont lui, évidemment. Et donc, du coup, il y a plusieurs femmes d'Europe Écologie Les Verts qui sont là en disant « Non, mais là, quand même, ça va pas être possible. » Enfin, je résume un peu brutalement leur réaction. Et dont une fait un post sur Facebook, Hélène Debost, en mettant vraiment « Quelle impunité !» Enfin, je sais plus les mots précis, mais voilà, où il y a quand même une allusion assez claire au fait que c'est problématique et qu'elle sait des choses. Et puis, à ce moment-là, Cyril Graziani, par ailleurs, lui, a alerté pour la première fois de France Inter, et alerté pour la première fois, et on lui dit, oui, mais il faut que tu vois avec Lénaïque Bredou à Mediapart, parce qu'elle travaille déjà dessus. Enfin, c'est vraiment le hasard, et du coup, il m'a appelé, on s'est dit, bah, on va travailler ensemble, on va pas travailler en concurrence sur un sujet pareil, ça n'aurait eu absolument aucun sens. Et donc, voilà, on a commencé à travailler ensemble, en appelant Hélène Debost, et après, voilà.
D'accord. Donc, si vous voulez, vous avez des rumeurs qui vous parviennent depuis de longs mois, vous dites?
Bah même, en fait, moi, j'ai couvert les Verts jusqu'au moment où ils sont sortis du gouvernement, puisqu'après, j'ai continué à l'exécutif seulement, puisque je m'occupe de François Hollande et du gouvernement à Mediapart. J'ai couvert les Verts avant l'entrée, avant 2012, puis jusqu'en 2014. Assez vite, quand même, j'ai eu des trucs après, voilà, qui n'étaient pas du tout, potentiellement, on m'a jamais dit, c'est un délit. On m'a dit, voilà, il y a un problème.
On vous a dit quoi, exactement?
C'est un lourd, il est lourd, ouais. Voilà. Bon, en fait, un dragueur lourd, en vrai, ça ouais. N'existe pas vraiment, en fait. C'est-à-dire, on peut draguer beaucoup, mais un dragueur lourd, en fait, très souvent, en fait, c'est des faits qui peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel. Simplement, on le dit pas parce qu'on le sait pas forcément. Enfin, voilà, mais bon. Et voilà, mais rien de précis, rien de précis.
D'accord. Et vous creusez pas? Quand on vous dit dragueur lourd, parce qu'on est quand même dans le contexte de l'affaire DSK en 2011, on en reparlera tout à l'heure, où effectivement toutes ces nuances sémantiques ont été disséquées, redisséquées, où se termine la drague, où commence le harcèlement. Voilà. Et donc quand on vous dit dragueur lourd, vous ne ressentez pas le besoin de...
Si, alors en l'occurrence, je l'ai fait sur d'autres cas, parce qu'à ce moment-là, au moment de l'affaire DSK, il y a d'autres gens, voilà, donc j'ai travaillé sur plusieurs cas, parce qu'il y a plusieurs élus sur lesquels j'ai travaillé, notamment sur la façon dont les partis politiques étaient incapables de gérer, y compris des élus condamnés, ce qui montre bien que la question n'est pas uniquement quand c'est comment ils gèrent des rumeurs, mais même comment ils gèrent des condamnations. Parce qu'il y a des gens qui ont été condamnés. Jacques Maillas, qui est toujours maire aujourd'hui, qui était sénateur socialiste en Seine-Saint-Denis, qui était condamné pour agression sexuelle, n'a pas été exclu du PS. Il a fallu qu'il y ait une médiatisation grâce à la VFT, l'association qui accompagne beaucoup de femmes victimes de violences au travail, et qui était celle qui accompagnait dans ce cas précis, qui a médiatisé son affaire et qui a aussi permis, du coup, de mettre la pression sur le PS. Finalement, il y a une commission des conflits. Bon, finalement, il s'est mis lui-même en retrait. Mais on voit bien quand même la difficulté. Donc moi, j'avais déjà travaillé sur ces questions. Denis Baupin, j'avais commencé plus précisément il y a un an, quand j'ai vraiment eu un premier témoignage direct, parce que jusque-là, c'était des trucs très indirects.
Ah oui, le premier témoignage, je dirais, c'est il y a un an. Et alors, donc, vous dites qu'il y a une accélération au moment de cette photo rouge à lèvres, là. Et là, très vite, vous avez les 8 témoignages, ou ça a été compliqué, ça a pris du temps, il a fallu convaincre, comment ça s'est passé?
Il y a quand même 2 mois qui s'écoulent entre le 8 mars et le 9 mai, où on a publié l'enquête, donc ça a pris beaucoup de temps. En fait, ça a été... Bon, j'avais déjà une personne que j'ai assez facilement réussi à convaincre de témoigner, puisque j'en avais déjà parlé avec elle un an avant, et qu'une fois qu'elle n'était pas seule... Elle voulait bien y aller. Elle le dit toute maintenant, depuis que l'enquête est sortie, que c'est parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas seules à bien vouloir témoigner à visage découvert, que ça a fait un petit effet boule de neige pour qu'elles arrivent à être 4. Il y a 2 d'entre elles qui se sont parlées, Hélène Debost et Sandrine Rousseau, qui se sont convaincues ensemble. Ensuite, voilà, Annie Lamère. Et puis après, sur les témoignages off, ça a été les plus difficiles. Les plus difficiles parce que si elles sont anonymes, c'est pas qu'elles sont moins courageuses ou je sais pas quoi, mais c'est simplement qu'elles sont liées à des relations de travail. D'abord parce qu'on ne juge pas si on témoigne à visage découvert ou pas. Enfin voilà, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus.
Je
ne
juge pas, je veux dire, moi journaliste, je ne veux pas juger.
Moi, c'est pas la justice. Moi journaliste, je n'ai pas, j'ai pas à juger de si c'est courageux ou pas. Enfin voilà, c'est déjà assez difficile comme ça de se raconter à des inconnus, à des journalistes qu'on connaît absolument pas.
Enfin, si, un peu quand même, si vous avez couvert les Verts pendant des années.
Ouais, mais moi par exemple, en l'occurrence, Hélène Debost, Annie Lamère, Sandrine Rousseau, Isabelle Attard un peu plus, mais alors sinon je les connaissais.
Je les connaissais pas.
Pas. Et alors celles qui parlent en off, je les connaissais pas du tout. Donc alors, et là, c'est des gens qui sont liés, pardon, à la relation de travail aux écologistes. C'est aussi la raison pour laquelle ils témoignent à visage caché. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont peur à ce moment-là aussi des représailles, de perdre tout simplement leur travail.
Mais c'est-à-dire les cas de témoignages à visage couvert, caché, sont le fait de femmes qui travaillent, enfin qui sont aujourd'hui encore soit élues, soit salariées du mouvement, mais qui sont encore dans une relation de travail avec EELV.
Oui, soit l'ont été, soit le sont. Enfin, il y a deux cas qui relèvent de collaboratrices à l'Assemblée nationale qui sont directement en lien de travail avec Denis Baupin, qui était jusqu'à lundi matin vice-président de l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi pour cette raison qu'elles ne témoignent pas sous leur nom, d'autant plus que toutes les collaborateurs et les collaboratrices disent la même chose, que la première qui ose le dire publiquement, on dit, enfin c'est ce qu'ils se disent entre eux, qu'elle ne trouvera plus jamais de travail en politique, que c'est fini. Après, c'est marqué étiquette, elle a dénoncé du harcèlement sexuel, elle a dénoncé une agression sexuelle, elle ne trouvera plus de travail dans ce milieu.
Alors ça, ils le disent, ou elles le disent, mais vous pensez que c'est vrai encore aujourd'hui, ou tout de même la réaction immédiate a été la démission de Baupin de son poste de vice-président ?
Peut-être que ça prouve que ça peut changer, puisqu'il y a effectivement une réaction immédiate. Non seulement il a démissionné, mais surtout Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, a demandé sa démission très très vite après la publication de l'enquête sur Mediapart et France Inter. Donc ça montre quand même qu'il y a une réaction un peu plus forte. Cela dit, je ne m'avancerai pas pour dire qu'aujourd'hui, pour les collaborateurs ou les collaboratrices qui dénonceraient ce genre de fait, on serait maintenant dans une relation où tout ça serait géré parfaitement, sans menace de licenciement à la clé.
Alors, depuis le 9 mai, Denis Baupin n'a pas parlé. En revanche, quelqu'un d'autre a parlé, mais comment la qualifier déjà ?
Emmanuelle Cosse, alors elle a réagi, elle l'a dit elle-même au triple titre en fait d'ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, d'épouse de Denis Baupin et de mère d'enfants avec Denis Baupin. Elle était interrogée le lendemain de l'apparition de votre article sur France Info et elle y estimait notamment que le cas de son mari devait se discuter non pas dans les médias mais devant la justice. On l'écoute.
On parle de faits qui sont d'une extrême gravité. Et si ces faits sont avérés, il faut que ça soit réglé devant la justice. Et si ces faits ne sont pas avérés, il faut aussi que ça soit réglé devant la justice. Il n'y a pas d'autre question, il n'y a pas d'autre choix. Et je le dis ici, et en tant que femme, et en tant que ministre. Et puisque vous me posez la question, est-ce que vous étiez au courant ?
Oui, est-ce que vous saviez ?
J'ai été secrétaire nationale d'Europe Écologie pendant 2 ans. Je n'ai jamais été saisie à aucun moment de signalement sur des faits de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. Ce à quoi on ne s'attend pas, c'est un embellement médiatique où il y a une personne qui, pour l'instant, ne peut rien dire.
Alors, je n'ai jamais été saisi, nous dit Emmanuelle Cosse. Et pourtant, dans le courant de cette semaine, dans les jours qui ont suivi l'apparition de l'enquête sur Mediapart et sur France Inter, est ressorti le récit d'une réunion, d'un congrès des Verts, dans lequel la question avait été posée, évoquée, et évoquée par vous, Dominique Trichet-Allaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'était passé lors de ce congrès des Verts ?
Oui, bien sûr. Alors, c'était il y a un an, le 9 mai. Alors, plus exactement, c'était un conseil fédéral. On a des conseils fédéraux régulièrement pendant l'année. Et donc, nous, la commission féminisme, ça faisait déjà plusieurs mois, et ça faisait même 2 ans que nous discutions entre nous des témoignages que nous avions concernant des cas de harcèlement sexuel, de attouchement sexuel en interne du parti. Il se trouve qu'on nous a également fait part d'un viol. Et nous étions complètement démunis face à ces témoignages-là, parce qu'il faut bien quand même remettre les choses à leur place. Nous, la commission féminisme, comme toutes les autres commissions thématiques, notre rôle est de travailler sur le programme politique, c'est-à-dire construire une politique. Qu'est-ce que c'est qu'une politique écologiste féministe ? Ce n'est pas du tout de travailler sur l'opérationnel et l'accueil des violences faites aux femmes, chose que d'ailleurs beaucoup de gens travaillent d'autre part jusqu'ici et de façon satisfaisante quand c'est mis en place et des procédures. Donc nous avons encore un énième témoignage et là, encore une fois démunis, on dit mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas possible, on peut pas juste rester comme ça, on peut pas juste seulement accueillir les témoignages et ne rien faire. Il faut qu'on réagisse et nous prenons, je dis bien nous parce que c'était vraiment en réunion de bureau, nous prenons collectivement la décision d'interpeller notre parti politique, donc à l'occasion de ce Conseil fédéral où siègent à peu près 150 personnes et où siège aussi donc le bureau exécutif et donc de les interpeller sur la situation. Et donc je fais cette intervention qui n'a pas été facile à faire pour trouver le moment et aussi facile à faire car elle a été très très mal reçue.
Alors qu'est-ce que vous dites exactement dans cette intervention ?
Alors, bah, c'est très simple. Deux éléments, aller à l'essentiel. Deux points. Un premier temps, l'état des lieux. C'est-à-dire, nous, voilà, c'est quoi l'état des lieux de la commission féministe. On nous fait part de cas d'harcèlement sexuel, d'attouchement sexuel et de viol dans ce parti en interne. Alors, bien sûr, comme nous sommes bien conscientes que ce ne sont que des témoignages, c'est-à-dire que nous, par contre, on n'a fait aucune enquête. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certaines victimes potentielles, mais j'ai envie de dire, c'est tout. Donc c'est pour ça que tout est resté anonyme, et du côté des victimes potentielles et du côté des auteurs potentiels, on respectait l'anonymat, bien entendu.
Mais alors, excusez-moi, dans les témoignages que vous avez recueillis, est-ce que le nom de Denis Baupin ou d'autres noms étaient prononcés ou pas ?
Oui.
D'accord. Seulement le nom de Baupin ou d'autres noms aussi ?
Alors, il se trouve qu'on nous a fait part d'autres noms, mais là, c'était différent. Les autres noms, ça a été des cas uniques.
D'accord.
Alors, que Denis Baupin était récurrent.
D'accord. Donc, le nom de Baupin est prononcé comme, je dirais, harceleur en série. D'autres noms comme auteur de faits uniques. Mais vous ne donnez pas ces noms lors de votre intervention dans cette réunion.
Non, parce que c'est pas l'objet, c'est pas nous de le faire. Là, on tombe dans le domaine juridique et nous, on est un parti politique. C'est pas notre boulot de faire ça. C'est pas notre place. Par contre, il faut bien dire ce qu'il en est de l'état des lieux. Il est hors de question de faire l'autruche et d'être hypocrite, en fait. Il est temps aussi de prendre nos responsabilités en tant que parti politique. On en a une. Et il est temps d'être courageux aussi.
D'accord. Et alors, donc, vous dites ça. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Alors, deuxième partie de l'intervention aussi, on demande au bureau exécutif de mettre en place un groupe de travail pour savoir comment prendre en charge ces cas-là, ces dossiers. C'est-à-dire, nous, la commission féministe, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, mais il faut une prise en charge correcte de ces témoignages. Et bien, juste après, ça a été... Alors d'abord, il y a eu un moment un peu de sidération dans l'Assemblée. Et puis, assez rapidement, des réactions assez violentes et de déni aussi. Mais non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se passer chez nous, pas chez les écolos. Et de déni, puis aussi l'agressivité par rapport à la messagère que j'étais. Mais c'est assez courant hein, dans les cas de violences sexuelles. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre pourquoi beaucoup de femmes n'arrivent pas à parler. Parce qu'en fait, les réactions sont très violentes. Et c'est nous d'abord qui sommes accusées quand même. Alors moi, on m'a traitée de folle. Je ne sais pas s'il y a eu le mot hystérique, mais c'était à deux doigts hein, de me dire, voilà, j'étais complètement folle de dire cela à ce moment-là. Parce que faut pas dire, parce que je ne dis pas plus, parce que... Enfin, et quand j'ai vu les réactions là dernièrement face à ce qu'a dit Cécile Duflot ces derniers jours, ça m'a vraiment fait penser à ça. Je me suis dit, mais voilà, elle arrive à dire des choses... Et qu'est-ce que fait Stéphane Le Foll ? Il lui reproche de ne pas en dire plus, de ne pas en dire de pas.
Voilà. On va voir les images tout à l'heure. Mais donc, alors, sidération, réaction agressive. Et puis, comment se termine cette séance ?
Et alors, elle se termine là pour ma part. Je descends de tribune. Et là, quand même, il y avait quand même un beau petit brouhaha. Hein, les gens étaient bien secoués. Mais c'est normal. En même temps, c'est des faits choquants. Eh bien, Emmanuel Cos, qui était dans la salle, qui a très bien tout entendu, est montée sur scène, à la tribune, a pris la parole en disant « Bon, face à ce qui vient d'être dit, c'est grave, on ne peut pas passer au sujet politique suivant comme ça. Donc, nous allons en échanger entre nous. » Et là, après, il y a eu différentes prises de parole de différentes personnes.
Alors, la manière dont vous le racontez diffère de ce qui a été raconté cette semaine, hein, notamment par un responsable écologiste, Yves Contasso, qui a donné une version différente, hein, Justine.
Ouais, le conseiller de Paris, Yves Contasso, qui s'est exprimé notamment sur Europe 1, et qui lui explique que Cos est plutôt monté à la tribune pour dire « maintenant ça suffit, on passe à autre chose, on arrête là cette discussion ».
Donc, ce n'est pas du tout la même chose d'avoir Cos disant « ça suffit, on arrête la discussion » et d'avoir Cos laissant un certain débat se dérouler et disant ensuite « bon, il va falloir gérer le truc ». Voyez.
Alors, moi, j'aime beaucoup Yves Contasso, mais ceci dit, enfin, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un débat. En plus, Pour le coup, c'est public. Hein. Vous pouvez demander à d'autres conseillers fédéraux. J'en ai quelques-uns en tête. Francine Bavé a pris la parole, par exemple. Elle a pris la parole, hein. Donc c'est bien qu'il y a eu un débat après. Après, le débat n'était pas... il y avait trop d'affect, c'était trop sur le coup. Donc il n'était pas très constructif. Hein.
Alors, juste sur ce point précis, avant de passer à autre chose, parce que c'est quand même important, dans l'état de vos informations à vous, lors de cette réunion, Emmanuel Kos a essayé de couper, d'interrompre le débat ou pas ?
De fait, moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont pris la parole ce jour-là sur cette question à la suite de l'intervention de Dominique Trichet-Allaire. Donc je pense que Yves Contasso a un souvenir assez partiel de cette réunion. Après, la manière dont tout le monde l'a ressenti à ce moment-là, évidemment, parce que dans la salle, ce que beaucoup de conseillers fédéraux nous ont raconté, c'est qu'évidemment, beaucoup de gens pensent alors immédiatement à Denis Baupin, oui, en se disant, voilà, elle est en train de parler de Denis Baupin. Donc évidemment, il y a un énorme moment de gêne. Il faut aussi s'imaginer, non seulement c'est violent, parce que voilà, en l'intérieur entre camarades, etc., tout ça n'existe pas, mais en plus, effectivement, la secrétaire nationale du parti, à ce moment-là, s'appelle Emmanuel Kos, et c'est sa compagne. Donc il y a évidemment un moment un peu particulier, ce qui explique aussi, par ailleurs, faut le dire quand même, la difficulté qu'ont eu les différents acteurs et les militants et les femmes à témoigner.
D'accord. Mais dans votre souvenir, ce jour précis, Kos n'a pas essayé d'étouffer le débat public.
Public, en tout cas, à l'interne, ça se passe pas très... Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça se passe pas très très bien, mais que de toute façon, ça ne se passe très bien pour personne. C'est-à-dire que les interventions sont de toute façon un peu tendues.
Alors, dans les signes avant-coureurs, il y avait donc eu votre intervention, Dominique Trichet-Allaire, et il y a eu aussi donc un fameux texte dont vous êtes l'auteur, Vanessa Jérôme. Alors, ce texte, est-ce que vous pouvez nous parler de ce texte, de quoi il s'agit, quand est-ce que vous l'avez rédigé, quand est-ce que vous l'avez remis ?
Alors, ce texte n'est pas un article, c'est une communication de congrès scientifique qui a donc vocation à être diffusée auprès d'un tout petit public dans une section thématique d'un congrès de pairs en sciences politiques. C'est typiquement le genre de document où on prend le risque, parce que ce n'est pas publié dans une revue académique ou dans un ouvrage, de tester des hypothèses, de lancer des pistes, de montrer des travaux qui sont en cours, pas nécessairement aboutis, etc.
C'est semi-interne, quoi.
Voilà. Absolument. C'est typiquement le genre de texte, si Internet n'existait pas, ce serait renéoté, ce serait...
Si Internet n'existait pas.
À la bibliothèque, je ne sais quoi. Ouais. Bon, voilà. Donc, je le travaille 6 mois avant, puisque bon, je passe évidemment sur la procédure qui fait qu'on présente ce genre de texte et comment. J'écris ce texte au printemps. Donc 2013, hein, le congrès était juillet 2013, hein, donc je l'écris au printemps, et on fait avant des propositions de communication en disant « je voudrais bien travailler sur ça, mais est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous acceptez ?» Et là, c'est l'automne 2012. Donc pour la chronologie de cette communication, voilà, la voici. Et ensuite, quand les communications sont dignes d'intérêt, qu'on les considère dignes d'intérêt, on propose aux auteurs en général des publications. Et du coup, et je termine là, un article est publié dans la revue académique Politics en 2014 aussi, en fin de donc l'année suivante, dans lequel il n'y a aucune mention de l'affaire dont on parle aujourd'hui. Il y a simplement la partie la plus sécurisée théoriquement du papier, c'est-à-dire la typologie des couples verts.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est à l'origine, c'est pas du tout un texte ou une recherche qui porte sur les cas de harcèlement ou d'agression sexuelle chez les verts. Ça porte sur un sujet beaucoup plus général, qui est voilà la place des femmes dans le aux élections et dans les instances exécutives du parti, c'est ça ?
Et surtout sur les couples, c'est-à-dire j'ai travaillé sur les investitures et je voulais voir comment les types de conjugalité jouaient sur la carrière des hommes et des femmes. C'est ça, ouais, le fond du papier.
Ouais, d'ailleurs, voilà, c'est tout à fait passionnant. Je l'ai lu d'ailleurs du coup, puisqu'il est sur Internet, donc il est public et on apprend qu'il y a trois grands types de couples chez les Verts. Voilà. Enfin, mais on mettra le lien dans l'article qui accompagnera l'émission. Tout le monde pourra s'y référer. Et au hasard, au fil de ce texte, on apprend effectivement que vous auriez recueilli des témoignages selon lesquels il y aurait dans le mouvement, dans les instances dirigeantes, un DSK des Verts.
Alors, comment ceci arrive dans la communication ? L'idée, c'est de voir comment les femmes dans le Parti Vert se débrouillent avec les violences. La mise en couple est une des manières, plus ou moins efficaces, de se protéger de la violence. L'autre, c'est de faire sortir les affaires, de revendiquer, de témoigner, bon, etc. Et du coup, il m'a semblé utile dans la fin de ce papier. Alors, on dit aujourd'hui, les femmes prennent le risque de parler là maintenant. Et voilà, et je pense qu'il faut, il faut saluer ça. Moi, à ce moment-là, j'ai pris le risque d'écrire. Je me suis dit, est-ce que je peux, en toute conscience professionnelle, faire un papier sur les violences? Je rappelle le titre de la section, vous l'avez peut-être, dans laquelle
la
papier est présenté.
Hein. C'est l'espèce de, voilà, de section thématique au sein du congrès dans laquelle vous présentez votre communication, et elle s'appelait « Affaires sexuelles, questions sexuelles, sexualité ».
Voilà. Et là, je me dis, est-ce que je peux présenter un papier dans cette section sans parler des rumeurs que je connais, qui sont plurielles, parce que on a relevé évidemment le DSK des Verts, parce qu'on sait maintenant y lire Denis Baupin, mais il y a des cas de violence conjugale, il y a des cas où des gens ont plusieurs partenaires et le déclarent de manière plus ou moins élégante, sans vérifier que tout le monde est d'accord pour que son nom apparaisse. Voilà, il y a tout un tas de choses, et du coup, je fais un petit peu un panel de ça, et le DSK des Verts, qui est entre guillemets, n'est pas une formule de moi, elle est d'ailleurs entre guillemets. Pendant mon terrain chez les Verts, j'ai entendu cette formule
plusieurs fois,
de manière renouvelée. C'est pour ça que je l'ai inscrite dans le texte. Et il faut bien replacer le contexte. Hein. Quand j'écris en 2012, moi, j'enquête dans le parti. Je fais cette enquête ethnographique depuis de longues années. Donc, ma chronologie, elle est beaucoup plus longue que ça.
Il faut préciser que vous êtes militante dans ce parti depuis 2002.
Je suis rentrée au parti en 2002. La première fois que j'ai entendu des rumeurs, c'est en 2004. Donc, au moment où j'écris en 2013, pour moi, le DSK des Verts, la formule, elle est citée parce que ça dit quelque chose. Je pense que les affaires sur le fond ne sont pas comparables. Et on pourrait, ce serait un papier en soi, hein, d'ailleurs, que de travailler cette comparaison. Mais ça dit quelque chose de l'imaginaire dans lequel les militantes sont à ce moment-là. Quand on me dit, on m'a pas dit en 2004, le DSK des Verts. De fait, l'affaire DSK n'était pas sortie. Mais, alors en tout cas, pas pour.
Bon,
c'est. Voilà, pas publiquement. Mais en tout cas, ça insiste beaucoup. Je le mets parce que ça insiste beaucoup et que ça dit quelque chose de l'imaginaire dans lequel les femmes sont prises à ce moment-là.
Ça dit quoi?
Ça dit la question du harcèlement, ça dit donc la question du caractère renouvelé, et puis surtout, et là, pour le coup, la phrase est de moi, bien sûr, et elle n'est pas entre guillemets, ça dit la sorte de bienveillance supposée dans laquelle on se trouve, et c'est le mot que j'emploie, parce que, voilà, il y a plein de gens qui ont l'air d'être au courant, et il ne se passe rien, et moi, je sais qu'au moins depuis 2004, oui, on est au courant, et il ne se passe rien. Certains sont au courant.
Quand ce texte est-il mis en ligne exactement ?
Il est mis en ligne quelques semaines avant le congrès, donc ça doit être juin, il
2015,
semble.
2013.
Non, 2013.
2013.
La communication est en ligne depuis juin 2013, et le congrès se tient début juillet.
D'accord. Il y a des suites
et
à votre texte ?
L'article publié dans la revue Politique ne mentionne pas.
Non, mais celui-là, il est expurgé, on n'en parle pas. Mais voilà. le texte intégral.
Le texte intégral, absolument pas. C'est la preuve, même si ça n'a pas de rapport là avec le sujet, que les politiques ne lisent pas les sciences sociales.
Ah, voilà, c'est que personne ne lit, en fait.
Et les journalistes. Mais non, mais c'est aussi pour ça qu'on peut risquer, et c'est bien aussi, qu'on peut aussi risquer des hypothèses, que voilà. Moi, maintenant, je suis convoquée, sommée de répondre et d'en répondre, et je le fais bien volontiers, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est parce que les politiques et les journalistes ne lisent pas de sciences sociales.
Après, il faut quand même repréciser.
Maintenant, le lit.
Quand même repréciser ce que c'est une communication de congrès. Il y a quoi ? Il y a des centaines d'articles mis en ligne dans une durée très courte. Et au mieux, disons qu'il y a peut-être les cinq personnes qui participaient au même panel que vous qui ont jeté un œil avant. Donc, c'est peut-être.
Alors, là où c'est pas tout à fait vrai, c'est qu'il y a une autre séquence qui, je pense, est important d'avoir en tête, qui est aussi une séquence qui peut recouper le travail qui a été fait là. C'est que j'ai soutenu ma thèse en juillet 2014. un an pile après la mise en ligne de ce travail. Je fais toujours un retour aux enquêtés. C'est compliqué en ethnographie, ce débat, mais moi, je l'ai fait. J'ai été invitée par
c'est-à-dire
les Verts.
C'est-à-dire que vous expliquez aux gens que vous aviez interrogé.
Voilà, donc j'ai présenté notamment aux journées d'été des Verts l'année dernière à Lille, mon travail de thèse. J'ai accepté d'aller dans les groupes locaux qui me demandaient de présenter mon travail et tout ça. Et sous une forme d'humour un peu potache, je dis que oui, je me suis aussi intéressée aux conjugalités, aux couples, aux manières dont ça travaille les investitures dans le parti, etc. Et là, il y a des militantes qui ont été tapées mon nom, Vanessa Jérôme, Google. C'est pas très dur parce que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ce serait peut-être pas pareil, mais à l'époque, il n'y a pas 36 000 choses qui sortent. Et on me dit, voilà, on a lu ta communication. Enfin, on ne dit pas communication, mais voilà, on t'a lu, on va faire circuler. Voilà. Ça veut dire que depuis juillet de l'année dernière, ce texte est lu dans le parti. Je ne sais pas exactement par qui, puisque je n'ai que deux retours de militants, mais il est lu.
Juste un tout petit point, dans ce passage précis de votre communication sur le DSK des Verts, vous dites un journaliste du Canard Enchaîné enquête, dit-on, dans le parti.
Oui, c'est ce qu'on y disait à l'époque. Oui.
C'était vrai, vous avez pu le vérifier?
Je ne sais pas.
Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est cet état d'entre-deux que, à la fois, vous décrivez et que décrit Dominique Trichet-Allaire. C'est-à-dire qu'on sait des bribes, on ne cherche pas à savoir plus, on n'a peut-être pas tellement envie de savoir plus. Alors, à la fois, c'est très surprenant sur ce sujet-là, et s'agissant de ELV, qu'on considère généralement comme un des partis d'abord où il y a le plus de femmes au pouvoir. Je veux dire, les deux secrétaires nationales successives ont été des femmes. Donc, où le féminisme est le plus intégré à la doctrine centrale du parti. Et en même temps, depuis une semaine, on entend des gens dire oui, mais alors, une des choses qui peuvent expliquer l'incuriosité ou la réticence à dire, c'est le rapport particulier dans ce parti à l'amour libre, par exemple. Au fait que, dès le début, chez les écolos, une forme de permissivité sexuelle est autorisée, voire même valorisée. Et voilà, peut-être que, ces agressions sexuelles auraient pu être interprétées comme une pratique sexuelle, finalement comme une autre, et donc tolérée. Est-ce que ça vous paraît une explication opérante aux uns et aux autres, par exemple, en commençant par vous, Dominique Trichet-Allaire?
Oui, c'est un peu l'idée de dire, comme on est dans un parti aussi libertaire, alors il y aurait une plus grande clémence ou tolérance par rapport aux frasques sexuelles des uns et des autres.
Est-ce qu'il y a un fond de vérité dans cette explication?
Excusez-moi,
Est-ce qu'il y a un fond de vérité dans cette explication?
Alors, moi, je pense que oui, je pense que ça peut... En fait, ça peut servir d'excuse à ceux qui ne veulent pas s'avouer la vérité. C'est plutôt ça. C'est une très bonne excuse pour ceux qui ne veulent pas regarder de face qu'est-ce qui se passe réellement. Mais quand même, on savait bien que, pour Denis Baupin, on savait bien que ce n'était pas juste... On savait bien qu'il y avait des agressions. On savait bien que les filles, beaucoup de jeunes femmes entre elles se disaient... va pas toute seule dans un ascenseur avec de nouveaux pains. Voilà, on se passe des infos comme ça. Il y a quand même, c'est quand même différent. C'est quand même différent.
Vanessa Jérôme,
moi, je pense que c'est juste une bonne excuse, hein, quand même.
Pardon.
Excusez-moi, juste pour revenir sur l'été dernier aux journées d'été. En effet, moi, j'avais assisté à l'atelier de Vanessa Jérôme et à ces mêmes journées d'été. La commission féministe avait fait aussi un atelier sur les violences sexuelles en interne des partis politiques. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on a l'impression que le monde découvre l'état des lieux, on dit, mais arrêtez, quoi, quand même. C'était aux journées d'été, quand même, aux ateliers. Il y a un programme. Enfin, les gens, ils lisent, je sais pas, quoi. Et donc, à cet atelier des journées d'été, de la commission féministe, on a évoqué ça. Et était également invitée une ancienne militante du Front de Gauche, qui s'appelle Fatima Ezzara Benomar, qui a également écrit un livre dessus. Donc là aussi, hein, faut arrêter de dire qu'on ne sait pas. Et qui fait part d'actes, en effet, de violence sexuelle au sein, notamment, au Front de Gauche.
Mais alors attendez, vous, cet atelier sur les violences sexuelles dans les partis, vous avez parlé de tous les partis, sauf les Verts, ou vous avez aussi parlé du vôtre?
Bien sûr, on a parlé d'abord. Moi, j'intervenais en parlant d'abord du mien, parce que finalement, dans les autres, je ne sais pas. bien que faut arrêter aussi de se mentir, hein, si ça existe ici, ça existe partout. Hein. Et d'ailleurs, je commençais en racontant l'intervention au Conseil fédéral.
Cette explication par la permissivité sexuelle, la culture particulière des Verts par rapport à la sexualité, à ce qui se dit, à ce qui se dit pas, à ce qui se fait, à ce qui se fait pas, elle vous paraît opérante ?
D'autant plus que j'y ai
moi-même. C'est la première à l'avoir avancé.
Ben oui, en fait. Bon, il y a plusieurs choses. Hein. Il faut quand même replacer le contexte. Je pense que on va un petit peu trop vite sur tout. D'ailleurs, dire « Ah, mais c'est pas possible que dans un parti comme les Verts, qui est si féministe, c'est dans son ADN, comment c'est possible ?» Bon, j'épilogue pas très longtemps, mais le Parti Vert n'est pas féministe depuis sa création en 1984. Les mémoires militantes sont d'autant plus courtes que le turnover est important. Très souvent, dans l'imaginaire, hein, y compris dans les commentaires ces derniers jours, les Verts, ça commence avec ELV en 2010. Bon. De 1984 à 1990, il n'y a rien, ni dans les statuts, ni dans les textes fondateurs à propos du féminisme, il n'y a rien sur la parité. Donc, pour le dire rapidement...
On parle d'une époque ultérieure.
Oui, mais le féminisme, le paritarisme, comme on le dit maintenant, c'est une conquête des féministes, des militantes à l'intérieur du parti qui s'imposent en gros à la fin des années 80. Donc, point 1, il n'est pas féministe comme ça dans son ADN. Deuxièmement, il a effectivement, par culture, même si elle n'est pas partagée par tous, une forme de, moi je dis rapport non normatif aux normes sociales. C'est-à-dire les Verts ne sont pas des fous à mettre dans des asiles. Ils savent qu'il y a des normes sociales, que des choses sont interdites socialement, mais ils ont un rapport très libéral à la norme, et notamment à la norme sexuelle, à la norme hétérosexuelle, au type de sexualité. Ce sont quand même les plus ardents défenseurs, et il ne faut pas leur retirer, hein, il y a des militants sincères, de l'égalité des droits, l'égalité des statuts, les différences de sexualité, de genre, etc. Là où, de fait, ça peut se renverser, parce que c'est à la fois une force et à la fois une faiblesse, on ne peut pas comprendre ça sans comprendre qu'il y a un univers politique particulier, on est en politique, et les rôles, le rôle politique, il est construit par les hommes, pour les hommes. C'est un rôle social qui est genré. Les premières qui parlent à visage découvert, c'est pas pour rien, sont des élus et pas les collaboratrices. Quand on fait de la politique, qu'on soit une femme ou un homme, on vous dit la politique, c'est être capable d'encaisser les coups, d'en donner, de les rendre, de se protéger, de se tanner le cuir, voilà. Ben, quand on est une femme en politique, c'est pareil. Donc les attaques sont pas les mêmes, elles sont genrées également, mais une femme qui fait de la politique, elle sait qu'elle doit être capable d'encaisser le sexisme, etc., parce que sinon, elle ne sera pas une vraie femme politique. Donc, il y a déjà une première marge de tolérance à la violence, de manière générale, aux remarques plus ou moins agréables. Deuxièmement, il y a en effet la question de la libération des mœurs, l'héritage 68-art, etc., qui fait qu'il y a une forme, pour l'instant, je dis de potache, parce que c'est une proposition de travail. Je travaille en ce moment sur la socialisation à l'humour potache. Donc, voilà, donc je dis comme ça. Peut-être que c'est un petit peu plus libre, qu'on tilt un petit peu moins vite, mais dans le cas d'harcèlement répété, je pense que l'argument ne vaut pas, c'est-à-dire ça vaut peut-être pour le premier moment, mais ensuite, quand les faits sont avérés qu'il y a plusieurs personnes et qu'ils sont violents et qu'il n'y a pas de doute, je pense qu'il ne faut pas employer cet argument-là au moment où, effectivement, il y a une violence.
Alors, toujours est-il que, comme dans beaucoup d'affaires de ce genre, si vous voulez, les témoignages suscitent les témoignages. Et pendant toute la semaine, on a vu se multiplier de nouveaux témoignages, Justine.
Et parfois, il n'a pas fallu chercher très très loin, temporalement et géographiquement, pour trouver de nouveaux témoignages. Je pense par exemple à une élue Les Républicains des Yvelines, Aurore Bergé, qui racontait le 9 mai, le soir même de la révélation, de vos révélations avec France Inter. Elle tweetait sur les réseaux sociaux « Ils ne changeront que si l'on parle, ils, ce sont les hommes politiques, et ce dont elle voulait parler, c'était des remarques sexistes de ses collègues auxquelles elle avait eu droit le jour même lors d'un conseil d'agglomération. On écoute son témoignage.
J'étais en conseil d'agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc dans mon département, et je suis accueillie par un collègue, quand je te vois, Aurore, j'ai envie de te faire une beau pain. Et puis un autre collègue surenchérit en faisant un jeu de mots sur mon nom de famille. Et en disant, quand je te vois, Aurore, j'ai le bâton de berger. une métaphore assez imagée et parlante. J'aurais dû leur dire stop, j'aurais dû les remettre à leur place immédiatement, et je le fais pas. Et c'est vrai que le premier réflexe, et je m'en suis rendu compte après, c'est que je me suis couverte, c'est-à-dire j'ai mis mes bras comme ça, comme si c'était moi qui étais en fait en tort, en cause, alors qu'en fait non, c'est pas une exception hier soir. Hier soir, c'est la norme.
À chaque réunion politique, vous entendez ce genre de propos?
Mais oui, sur moi ou sur d'autres. C'est des femmes qu'on va critiquer sur leur physique. C'est des femmes qui parfois ont des comportements durs et qui vont devenir des pisvinaigres ou des mal baisés dans la bouche des hommes. Et même parfois dans la bouche des femmes.
Le vrai harcèlement sexuel, vous l'avez aussi rencontré?
Le harcèlement, ça existe. C'est-à-dire, c'est des messages insistants que vous allez recevoir et qui vous plaisent.
Ça vous est arrivé ?
Ça m'est arrivé et ça vous place dans une situation très inconfortable, encore une fois. Est-ce que c'est moi qui ai provoqué ce comportement chez lui ? Est-ce que je peux en parler ? Et à qui je peux me confier sur ces sujets-là ? Et là, vous manquez cruellement d'interlocuteurs.
Mais pourquoi tout simplement ne pas l'envoyer promener ?
Parce que c'est difficile, en fait, de rejeter. Quand vous êtes dans cette situation, vous êtes dans une situation qui n'est pas égalitaire. La personne qui envoie ces messages-là... ou qui a ses comportements déplacés, a souvent un ascendant de notoriété, d'antériorité, et donc du coup...
Ou d'âge.
Ou d'âge, tout simplement. Et donc quand vous devez dire non parce que vous dites non, vous faites mille et une circonvolutions en disant « comment je fais pour dire non sans que pour autant demain, il me blacklist, qu'il dise sur moi des choses qui sont fausses ?»
Alors, ce témoignage-là, il faut le rappeler, c'est ce qui arrive à cette jeune élue, c'est le soir même de vos révélations, alors que vos révélations sont partout, sur toutes les antennes, que tout le monde ne parle que de ça, voilà, dans le secret relatif d'un conseil d'agglomération, voilà ce qui se dit, j'ai envie de te faire une beau pain. Alors, pour une journaliste, il y a deux manières d'accueillir ce qu'on vient d'entendre. On peut dire, super, au moins, les témoignages, maintenant, voilà, se font se multiplier, maintenant, les gens parlent. Et puis, on peut se dire, mais c'est terrible, parce que je peux révéler tout ce que je veux, on peut révéler tout ce qu'on voudrait, et ça changera jamais. Les mentalités ne changeront jamais. Et finalement, toutes les révélations que vous pouvez... Mediapart, vous enchaînez les révélations sur la corruption. Nous, Arrêt sur Image, on enchaîne les enquêtes sur les dysfonctionnements médiatiques. Et voilà, et puis ça continue toujours, quoi.
Oui, et puis il n'y a pas que nous. Parce que, par exemple, sur les questions d'harcèlement, enfin, de violence sexuelle, il y a les associations qui travaillent là-dessus, il y a les féministes, il y a les partis, il y a la loi qui bouge. Il y a un débat public quand même sur ces questions. Il y a eu une nouvelle loi sur le harcèlement sexuel en 2012. Mais en même temps, moi, je pense que ça participe au fait que ça change. C'est-à-dire, ça ne peut pas, une enquête journalistique, aussi médiatisée soit-elle dans la foulée, ne peut pas faire que tout d'un coup, tous des mécanismes ancrés depuis très longtemps, qui remontent, enfin voilà, à des mécanismes sociaux très lourds, ne vont pas s'effondrer comme ça. Enfin, moi, je l'ai pas pensé. Par contre, je pense que ça peut participer à poser une petite étape, un petit caillou sur le chemin du fait que ça change.
Patience.
Ouais, patience. Mais je pense par ailleurs qu'effectivement, quand il y a eu le débat sur, je prends l'exemple de la loi sur le harcèlement sexuel, elle était tombée, cette loi, par une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, déposée par un élu des Républicains, si je me souviens bien, qui fait que pendant quelques mois, on n'a plus eu de loi sur le harcèlement sexuel, ce qui fait quand même que pour les femmes qui ont porté plainte sur cette période, les procédures sont tombées. Voilà, tout ça, du coup, a suscité une nouvelle loi, un nouveau texte. Là, il y a un nouveau débat sur la prescription, qui n'est pas tout à fait lié à l'affaire Baupin, puisqu'elle était, ce débat a commencé avant, bien avant, puisque c'est pour rallonger les délais de prescription en général sur les crimes et les délits.
Trois ans sur les délits,
et l'idée c'était de passer à 6 ans. Voilà, tous ces débats existent en dehors de ces révélations journalistiques, et de toute façon, voilà, moi je pense que ça contribue à ce que ça évolue. On l'a déjà vu au moment de l'affaire DSK.
De toute façon, il vaut mieux penser ça.
Sinon on arrête le job et on
fait tout à fait autre chose. Alors, des nouveaux témoignages apparaissent et d'anciennes affaires ou de relativement anciennes affaires resurgissent.
Oui, et notamment l'affaire Michel Sapin, puisqu'avant l'affaire Baupin, il y avait eu l'affaire Sapin. Donc ce ministre en exercice a été accusé, alors dans un premier temps de manière anonyme, d'avoir mis une main aux fesses d'une journaliste politique. Ensuite, son nom est sorti, et puis d'autres éléments sur cet épisode sont sortis. On a commencé à écrire qu'il avait en fait tiré l'élastique de la culotte. On reviendra éventuellement sur ces débats, sur ce qui s'est vraiment passé. Toujours est-il que parmi la classe politique, des voix se sont élevées pour demander des explications au ministre, notamment celle d'une députée.
Au soir de l'affaire Baupin, hein. on parle de ce qui se passe après l'affaire Baupin.
Oui, oui, disons que en l'occurrence, la députée socialiste Delphine Bateau s'est un peu saisie de l'affaire Baupin pour rappeler l'affaire Sapin. On écoute ses interventions successives.
Maintenant, il faut faire le grand ménage. Il faut aller jusqu'au bout pour mettre fin à ce système. Aucun parti n'échappe à une forme de complicité avec cette omerta. Il y a un ministre aujourd'hui qui est mis en cause, qui doit à tout le moins s'expliquer, présenter des excuses. Voilà, il faut que ça s'arrête partout et pour tout le monde.
La députée Delphine Bateau affirme ainsi que l'affaire Baupin est loin d'être un cas isolé.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et donc il faut faire le ménage. C'est-à-dire que toutes les situations doivent être dénoncées.
Donc vous demandez à Michel Sapin aujourd'hui de baser ses sources, tout simplement, puis d'arrêter de dire que c'est pas vrai, etc., alors que tout le monde sait que c'est vrai.
Après l'affaire Baupin, vous demandez à Michel Sapin de s'expliquer sur ses indélicatesses. Quelles indélicatesses, Delphine Bateau ?
Mais je crois qu'il s'est expliqué finalement hier soir, après avoir dit que c'était une blague pétache.
On est dans le domaine total de calomnie, il s'agit d'allégations qui sont calomnie. Fausses.
Il a fait hier soir ce que je demandais, c'est-à-dire reconnu les faits, tout simplement, et dit quelque chose qui s'approche de la vérité.
Alors, ce qui est particulièrement frappant dans ces trois extraits, c'est que Delphine Bateau elle-même ne prononce jamais le nom de Michel Sapin. Ce sont les journalistes qui prononcent le nom. Et en revanche, elle répond aux questions en admettant donc qu'il s'agit de Michel Sapin, même si elle-même n'a pas prononcé le nom. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans l'histoire médiatique de cette affaire Sapin, la question de savoir s'il faut ou pas donner son nom, s'il fallait ou pas le donner, est centrale. Alors, cette histoire médiatique de l'affaire Sapin, qui remonte à l'an dernier.
Oui, qui a débuté en 2015 au moment de la publication d'une tribune que vous aviez co-signée, Lénaïque Bredoux, d'une tribune de femmes journalistes dénonçant le sexisme de certains élus et responsables politiques, qui s'appelait Bas les pattes. Elle était signée d'une quarantaine de journalistes. Elle citait un certain nombre de cas de sexisme de la part d'hommes politiques français, et parmi ces cas, celui, je cite, d'un ministre qui, nous voyant pencher pour ramasser un stylo, ne peut retenir sa main en murmurant « Ah, mais qu'est-ce que vous me montrez là ?» Le ministre en question n'est pas dévoilé à l'époque. Le deuxième épisode de cette affaire a lieu un an plus tard, fin avril 2016, lorsque le journaliste du Point, Aziz Zemmoury, et la journaliste indépendante Stéphanie Marteau co-signent un livre sur les coulisses de l'Élysée sous François Hollande, un livre qui s'appelle L'Élysée Off. Quelques pages y sont consacrées au sexisme et au cas de harcèlement. Et là, dans un développement sur Michel Sapin, on peut y lire, s'il n'est pas explicitement nommé dans la tribune de Libération, il est clairement visé. Et les deux auteurs ajoutent qu'il aurait, je cite, fait claquer l'élastique de la culotte de la reporter en pantalon taille basse, et que la scène se déroulait fin janvier 2015 au Forum économique mondial de Davos.
Et ils sont sur le plateau du Grand Journal, et on les écoute.
Oui.
Autre affirmation qui n'est pas moins grave, puisqu'elle relève du sexisme ordinaire, l'affaire que les internautes ont baptisée le culotte gate. En 2015, au Forum de Davos, le ministre des Finances, Michel Sapin, aurait claqué l'élastique de la culotte d'une journaliste qui s'est penchée devant lui pour ramasser un stylo. Le ministre a démenti. Vous nous confirmez cette affirmation qui est quand même assez grave.
Confirme à 100%. Il a, comme l'ont écrit nos consoeurs, dont la victime en l'occurrence de cette triste affaire, il n'a pas pu retenir sa main.
Alors, question très simple, pourquoi il y a un an n'avez-vous donné aucun des deux noms, ni le nom de la victime, ni le nom du ministre ?
Bon, en fait, c'était un débat qu'on avait eu entre nous quand on a fait cette tribune. L'idée, c'était de faire une tribune, pas une enquête journalistique, parce que je rappelle quand même qu'on est journaliste, et que quand on est journaliste, on fait notre travail, en fait. Quand on prend la parole publiquement, moi j'estime que quand j'écris dans un journal, c'est quand même un accès à un public. C'est pour faire mon travail. Donc c'est pas, quand je décide de le faire en m'exprimant, en signant un texte, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc c'est pas le même registre. Enfin, je précise parce que ça compte pour ce qui s'est passé sur cette histoire.
Mais en même temps, dans Mediapart, vous faites pas non plus un article pour dire voilà ce qui s'est passé, et c'était Sapin, et voilà le nom de la journaliste.
Non, mais voilà, parce que par ailleurs, à ce moment-là, je ne sais pas forcément qui sont tous les noms dans la tribune, puisqu'on a aussi travaillé de façon à la fois collective et à la fois chacun avec des canaux, etc. On a eu un débat entre nous sur cette question. On s'est dit, finalement, à la majorité, après des débats où tout le monde n'était pas d'accord, que l'idée était de dénoncer un système, enfin, un truc assez endémique, un fonctionnement assez endémique, une persistance du sexisme en politique de manière beaucoup trop structurelle pour qu'elle ne soit que marginale. Et on s'est dit, si on mettait 4 noms, 5 noms, 6 noms, on allait parler des 6 noms et on n'allait absolument pas avoir ce débat. Peut-être a-t-on eu tort.
Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, d'ailleurs ?
En fait, mon souci, il a un souci de statut. C'est-à-dire, je pense que ça contribue à parasiter le débat, alors donner les noms, parce que c'était aussi beaucoup des hommes qui disaient ça, genre pour montrer bien que c'est pas tous les hommes qui font ça, bon, ok, enfin le problème c'est quand même qu'il y en a beaucoup trop, et que les hommes politiques sont assez bien placés pour le savoir, comme les hommes journalistes d'ailleurs, parce qu'ils assistent à toutes ces scènes. Mais moi je pense que je vois pas comment on aurait pu faire une tribune en donnant des noms sans respecter le contradictoire, par exemple, c'est-à-dire sans interroger les ministres sur chacun en disant bonjour, on va publier une tribune en disant ça, comment vous réagissez? Non mais ouais, vraiment, je me suis techniquement posé la question, parce que sinon, d'abord, on peut être condamné en diffamation, et puis en plus, par ailleurs, c'est, enfin, en termes de méthode de travail, c'est un peu compliqué, en tout cas quand on est journaliste, alors voilà, peut-être il faut le faire autrement. Moi j'étais convaincue, par exemple, qu'il fallait le faire au fil de l'eau, c'est-à-dire à partir du moment où on avait fait la tribune, maintenant on avait dit bon voilà, on a un problème. Moi, je me sentais complètement autorisée, si jamais il se repassait le moindre truc, à l'écrire dans un papier, dans le cadre d'un papier, en disant, voilà, à l'occasion de cet article, par exemple, dans la boîte noire qu'on a au bas des articles à Mediapart, à l'occasion de cet article, voilà ce qui s'est passé. Bon, il se trouve que depuis que j'ai signé cette tribune, il ne s'est plus rien passé. Donc, je n'ai pas pu le faire. Sinon, je l'aurais fait.
D'accord. Donner les noms, pas donner les noms. Alors, vous êtes dans une position de chercheuse, c'est différent, mais vous auriez été journaliste. Quelle aurait été votre position lors des discussions dont nous parle Lenaïm Bredouille, vous auriez trouvé plus efficace, légitime de donner le nom de Sapin, de ne pas le donner ?
Écoutez, ce que j'aurais fait si j'étais journaliste, je ne sais pas. Ce que j'ai fait comme politiste, je le sais. Je n'ai pas mis de nom dans ma communication.
Il y a peut-être une question qui se rapproche de celle de Daniel, mais on sait que dans le monde académique, ces questions ne sont pas étrangères non plus. Mmh. Pourtant, on n'a pas pour le moment vu, à ma connaissance, de grandes tribunes de femmes universitaires qui dénoncent le harcèlement sexuel lié aussi à des logiques de pouvoir qui existent tout à fait dans le monde académique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence fondamentale, ou est-ce que ça pourrait se produire, et est-ce que la médiatisation d'affaires comme l'affaire Bobin pourrait encourager ça?
Je pense que, pour paraphraser, on ne naît pas féministe. On le devient, qu'il y a des univers qui sont plus ou moins propices à le devenir, et notamment les verts sont un univers, pour peu qu'on y reste longtemps, la socialisation partisane chez les verts, évidemment, pousse au féminisme, mais on s'en rend compte petit à petit, hein, que finalement, on a accepté une remarque qui n'était pas acceptable, un geste un peu déplacé, c'est le contrôle militant serré sur les individus font qu'à un moment donné, on réalise soi-même, soit qu'on peut être agresseur, soit qu'on peut être agressé, mais il faut rester un petit temps dans l'univers pour qu'il ait un impact, une force sur vous. Je crois que c'est vrai dans le journalisme, c'est vrai dans le monde académique. Donc, en fonction de la porosité de ces univers à la cause des femmes, au sens large, le temps qu'on y passe et les positions qu'on y occupe, hein, je rappelle que là, on a l'air de dire, je reprends Denis Baupin, il est président, vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà. Les premiers témoignages, une fois qu'on a recoupé les dates, c'est pas un militant lambda, hein, il est déjà dans l'appareil, il fait partie déjà des dirigeants. Donc, ce qui fait aussi la qualification là, de l'acte pas acceptable, c'est la dissymétrie dans les positions de pouvoir. Et là, je pense que c'est vrai dans tous les univers, un PDG d'entreprise, c'est pas un petit magasinier, c'est pas, voilà, on craint pour son emploi, on craint pour sa réputation. Alors, ce qu'il y a de spécifique peut-être à l'univers politique, c'est que il tient éminemment sur la notoriété, sur la réputation. On peut, alors c'est encore une fois ça double tranchant, il y a des hommes politiques condamnés, et alors on a l'impression que ça ne fait rien à leur carrière et à leur ascension, et puis en même temps il y a une forme de fragilité, le moindre doute, la moindre rumeur peut égratigner assez vite, pour peu que...
Sur cette question de donner les noms ou pas donner les noms, il y a aussi la question du nom des victimes. Donc, dans l'affaire Sapin, le nom de la journaliste qui a été victime de ces faits n'a toujours pas été publié, j'imagine, parce qu'elle ne le souhaite pas.
Oui, elle le souhaite pas.
Voilà. Et y compris dans les 40 journalistes signataires du collectif Balépat, il y avait aussi des journalistes qui ont signé mais qui n'ont pas voulu donner leur nom.
Oui. On a été 16, je crois, de mémoire à donner notre nom parce que les autres ont pas souhaité, soit parce qu'elles sont précaires, ça existe hein, quand même beaucoup dans le journalisme, vous le savez très bien ici, et que donc elles ont eu peur des représailles, encore une fois, d'autres qui n'étaient pas à l'aise dans leur rédaction, qui avaient peur de la réaction de leur rédaction, et puis d'autres qui n'ont pas, où c'est compliqué de signer des tribunes publiques, où il faut demander l'autorisation, etc., etc.
Dans la préparation de l'émission, parmi les signataires, il y a une journaliste de France 3. Ouais. Et vous avez dit à Justine, elle a particulièrement le mérite.
Parce que c'est la seule journaliste de télévision à avoir signé cette tribune. Ben, je pense que c'est pas complètement.
Pourquoi c'est intrinsèquement plus dur pour une journaliste de télé? Ce serait intrinsèquement plus dur pour une journaliste de télé.
Il se trouve que intrinsèquement, je pense pas du tout. Mm. Alors là, je pense que c'est pas du tout lié au métier en lui-même. Il se trouve que je constate que on a été plus nombreuses dans les rédactions de presse écrite, voire même de radio, et qu'en télé, elle a été la seule, parce que je pense qu'en télévision, je pense que parfois les filles se sentent pas toujours très encouragées dans leur rédaction. Sur ces questions-là.
C'est-à-dire que les rédactions télé sont plus machistes que les rédactions de presse écrite ?
Je ne sais pas si c'est plus machiste. Non. Je ne sais pas si elles sont plus machistes, parce que je me méfie de dire qu'en fait, en presse écrite, c'est mieux, parce que par ailleurs, il y a aussi des mécanismes un peu différents. Ça peut s'exprimer de façon très différente.
Alors qu'est-ce qui pourrait expliquer ?
Peut-être que c'est aussi plus difficile de dire quelque chose publiquement dans des grosses rédactions énormes où les relations hiérarchiques sont plus lourdes. Moi, je pense que je le vois plus comme quelque chose comme ça que plus machiste.
D'accord, c'est pas lié à la télé.
Non, pas du tout. Sauf que je constate que c'est le cas. Je crois pas.
Ça peut pas être aussi plus simplement parce que j'imagine que quand vous avez décidé d'écrire cette tribune, vous l'avez envoyée à des connaissances et que ça ait moins circulé parmi des journalistes de télévision parce que l'idée est plutôt partie de journalistes de presse écrite, je sais pas.
Peut-être, mais en fait, elle est partie des gens qui se trouvent couvraient des déplacements à l'étranger, donc on est tous réunis au même endroit.
Ouais. J'avais une autre petite question, puisqu'on parle des victimes. Tout à l'heure, Dominique Trichet-Allard parlait de victimes potentielles. On a lu des journaux qui utilisaient le terme de victimes présumées. Il y a le collectif Prenons la Une, qui est un collectif de journalistes féministes, qui a alerté en disant « Attention, le terme de victime présumée, ça a tendance à discréditer. » Mais en même temps, tant que ça n'a pas été jugé, est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là? Vous vous êtes posé la question, j'imagine, pour l'écriture de votre enquête.
Ouais, moi, je me suis posé la question. C'est-à-dire, moi, je ne dis pas victime présumée. Alors, ça n'existe pas, en fait. Dans le droit, par exemple, dans le droit, ça n'existe pas, une victime présumée. Donc, la question, c'est que à partir du moment où on enquête sur Denis Baupin, parce que par ailleurs, on a donné un nom, au final. Enfin, dire que quand on a fait notre travail journalistique, on a donné un nom, celui de Denis Baupin. Du coup, quand on travaille sur ce cas, on recoupe quand même. C'est-à-dire, on a des témoignages, on ne se contente pas juste des témoignages, on n'a pas juste été convaincre des femmes, on a essayé d'enquêter sur un environnement. On a enquêté là-dessus, on s'est rencontré avec Vanessa Jean, parce que justement, moi, on m'a envoyé son article, et puis j'ai rencontré plein de dirigeants des Verts, plein de militants, y compris. On a aussi été voir des socialistes, on a été voir des conseillers, etc., pour leur dire, voilà, de quoi avez-vous été alerté? Et systématiquement, on a fait un travail un peu basique, hein. C'est-à-dire, quand elles nous ont dit, voilà, il s'est passé ça, elles nous ont dit, bah, j'en ai parlé à machin. Bah, non, on a été voir machin, on lui a dit, est-ce que, non, mais voilà, tout simplement pour, enfin, on s'est pas dit oui, donc on a aussi travaillé par moments en disant, bon, alors faisons comme si tout était faux. Et voilà, travaillons. Moi, j'ai aucun problème à dire que ce qu'elles racontent sont des faits pouvant relever de l'agression ou harcèlement sexuel et qu'elles ont été victimes de ces faits-là.
D'accord. Alors pour clore ce débat sur est-ce qu'il faut donner les noms ou pas, un exemple parmi bien d'autres qu'on aurait pu choisir, alors donc qui est tiré d'une affaire relativement ancienne qui avait surgi dans le sillage de l'affaire DSK il y a quelques années, l'affaire Georges Tron.
Oui, en fait, parce qu'à ce moment-là, certaines victimes avaient vu leur nom sortir contre leur gré, mais avaient décidé de finalement l'assumer publiquement. Donc l'affaire Tron, c'était en mai 2011, en pleine affaire DSK. Georges Tron était alors secrétaire d'État à la fonction publique, et il était accusé d'agression sexuelle et de viol par deux anciennes employées municipales de Draveil, la ville de l'Essonne, dont il était le maire. Et à la télévision, on a notamment pu entendre Eva choisir de parler publiquement parce que, expliquait-elle, son nom avait de toute façon été jeté en pâture. Écoutez-la.
Je voulais rester anonyme pour préserver ma vie privée, mon enfant et ma famille proche. Là, étant donné que mon nom est dans toute la presse et sur Internet, partout, je ne vois pas pourquoi maintenant je me cacherais, vu que le mal a déjà été fait. Et ça, c'est un moyen de pression pour éviter à ce que d'autres femmes parlent, parce que j'en connais d'autres et qui, je pense, subissent ces pressions-là, et devant la peur d'être elles-mêmes jetées en pâture, ne porteront pas plainte. Et c'est regrettable.
Voilà, comme quoi, tout est cas d'espèce. Je pense que c'est ce qu'on peut dire sur ce débat. Donner les noms, pas donner les noms, ça dépend. Voilà,
excusez-moi, c'est pas du tout la même chose de donner le nom d'un agresseur ou d'un harceleur potentiel. Enfin, voilà, présumé que de celui d'une victime. Moi, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire,
Alors là, pour le coup, je ne sais pas si c'est de l'éthique, de la déontologie, enfin, en tout cas, c'est ma conviction personnelle, que on ne peut pas obliger quelqu'un à dire ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a subi. Ça n'aurait aucun sens. Ce n'est pas du tout la même chose d'interroger un ministre en lui disant « Bon, voilà, vous avez publié un communiqué après avoir démenti, dans lequel vous présentez des excuses, et que, est-ce que raisonnablement vous considérez que vous pouvez toujours être ministre ?» que de dire, il faut dire que la journaliste, depuis quand on obligerait une journaliste à dire ce qu'elle a vécu, comme n'importe qui, hein, comme une salariée, comme n'importe quel salarié, tout simplement, comme n'importe quelle femme, ou quel homme qui peut être agressé aussi, évidemment, et l'obliger à porter plainte, à le dire publiquement. Enfin, pour moi, c'est pas du tout le même débat de donner le nom de l'agresseur que donner le nom de l'agressé.
Alors, dans le débat médiatique qui s'est engagé à l'occasion de l'affaire Baupin, comme dans toutes les affaires du même genre, les mis en cause se répondent aussi avec un certain nombre d'arguments, Justine.
Oui, les mis en cause ou leur soutien politique ou leurs collègues. Et alors, il y a notamment une première catégorie de riposte qui consiste à expliquer que tout cela n'est pas par hasard. Alors, on l'a entendu, ce n'est pas par hasard si ça sort maintenant. C'est un argument qu'on a entendu ces derniers jours, notamment, par exemple, dans la bouche de l'ancienne eurodéputée Corinne Lepage, dans la bouche du secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen, ou encore chez le chroniqueur de RTL, Éric Zemmour. Alors, ils ne le disent pas tous de la même manière, mais ils estiment tous les trois que ce calendrier de publication, de révélation, pourrait finalement ressembler à un règlement de compte politique. On les écoute.
Puis deuxièmement, quand même pas être totalement naïf. Cette affaire, elle sort aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Denis Baupin a quitté les Verts, parce qu'Emmanuel Cosse est allé au gouvernement sans l'accord de son parti. Alors, je veux bien qu'il n'y ait aucun lien entre l'un et l'autre, mais enfin, j'en serais quand même très, très étonnée.
C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire vous avez l'impression qu'il y a aussi une forme de règlement de compte politique autour de cela.
Ça ne m'étonnerait, je ne peux pas le prouver. Et puis, je ne suis pas chez les Verts, donc je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux. Mais enfin, ça ne m'étonnerait pas qu'il en soit ainsi.
Juste un petit détour. Vous pensez que c'est une façon d'atteindre aussi sa compagne, Emmanuel Cosse, qui a décidé de venir au gouvernement et qui est vilipendé par ses amis.
Oui, vous voulez dire que est-ce qu'on peut avoir une lecture du contexte politique dans lequel ces accusations sont portées ?
Chez les Verts.
Je laisse aux commentateurs et aux commentatrices sagaces.
Oui, est-ce que vous posez la question ?
Vous ne l'excluez pas.
Est-ce que vous posez la question ?
Je constate que c'est arrivé à un moment particulier, voilà.
Le règlement de compte entre écologistes.
Mais non, je ne dis pas ça. Je constate simplement que est-ce qu'on doit l'écarter ? Mais la justice dira tout ça. La justice dira tout ça.
Ils se font aussi, et surtout, les instruments consentants de la vengeance politicienne de Cécile Duflot contre Emmanuel Cosse, la compagne de Denis Baupin, qui l'a trahi pour un plat de lentilles ministérielles. Le hasard et Mediapart font bien les choses.
Alors, Lénaïm Bredou, je vous ai vu accablé pendant la diffusion de ce montage. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, de toute façon, qu'un média sort un scoop et Mediapart aussi, immédiatement, le contre-feu immédiat, c'est « Oui, mais c'est pas par hasard si ça sort maintenant, c'est parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à le faire sortir. » Et puis le calendrier, et puis on est en pleine campagne, ou on est juste après une campagne, ou on est toujours à un moment, de toute façon, il ne faudrait pas le sortir. OK. Mais cela dit, tout de même, j'imagine que... Enfin, je veux dire...
Mais c'est une question qu'on s'est posée.
Voilà. Parce que sur le papier, c'est plausible, puisque sur le papier, on a effectivement deux responsables qui ont, entre guillemets, trahi les Verts, l'une pour rentrer au gouvernement, l'autre qui a quitté le mouvement. Donc on peut imaginer que, effectivement, si les témoignages arrivent à ce moment-là, c'est pas tout à fait par hasard, et vous me dites que vous êtes posé la question.
Mais comme sur n'importe quelle enquête, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, est-ce que tout d'un coup, c'est pas, au début en tout cas, les trois filles qui se disent qu'ils sont mis d'accord, enfin voilà, c'est le principe
sans
de base.
Sans forcément s'être mis d'accord,
c'est pas forcément concerté.
Il faut aller,
Soit c'est une opération politique, et dans ces cas-là, c'est forcément concerté, parce que vu le nombre de témoignages qu'on avait assez vite...
On peut aussi dire qu'un contexte politique particulier libéré les
paroles. C'est deux choses différentes, parce que moi, mon problème, la question que je me suis posée, c'est est-ce que du coup, ce serait un complot qui voudrait dire que c'est faux ? Ben ça aurait été mon gros problème. Est-ce que, par ailleurs, le contexte politique favorise la prise de parole ? C'est moi mon problème. Non, parce que ça ne change pas la véracité des faits. Non, mais c'est quand même deux choses différentes. Pour moi, ça ne change pas la véracité des faits. Par ailleurs, je suis quand même assez bien placée pour savoir que ça fait déjà des mois et des mois et des mois que des gens parlent de ça. Moi, j'ai déjà interrogé des gens l'été dernier. À ce moment-là, Emmanuel Cosse est secrétaire national du parti. Denis Baupin est membre du parti. Par ailleurs, je rappelle quand même que Denis Baupin a été alerté par cette enquête, puisqu'il a écrit au directeur de la publication de Mediapart, pour, enfin son avocat, nous mettant en demeure de ne rien publier au plein milieu d'une enquête en cours. Le 8 avril, il a démissionné d'Europe Écologie Les Verts, le 18 avril. Donc par ailleurs, dire que c'est parce qu'il est parti du parti que tout d'un coup les gens ont commencé à témoigner, j'ai même, lui-même le sait que c'est faux, puisque lui-même nous a écrit le 8 avril.
Ça, non mais ça change rien à la véracité, on est bien d'accord, mais j'imagine, ça donne des éléments de contexte, on va dire. Oui. Ça pourrait donner si,
quand vous faites l'enquête, c'était un petit groupe qui avait, je sais pas, une raison personnelle ou politique d'en vouloir. Quand vous faites l'enquête et que vous interrogez absolument tout le monde, dans toutes les tendances, que vous interrogez des proches de Denis Baupin, et que personne ne vous dit que tout ça est une grande affabulation, vous vous dites quand même que le débat sur le règlement de compte politique est assez absurde.
Y compris des proches de Baupin. Enfin, je veux dire,
y compris des proches de Baupin qu'on a interrogés au cours de cette enquête.
Alors, Dominique Trichet-Aller, on vous avait perdu par Skype, on vient de vous retrouver. Super, bien, bon retour parmi nous. Je ne sais pas si vous avez vu le montage qu'on vient de diffuser. En gros, une des réponses au scoop de Mediapart et de France Inter est de dire que ce n'est pas par hasard si ça sort maintenant. Et ce serait une vengeance de Duflot et des duflotistes contre le couple Baupin-Cos. Qu'est-ce que vous pensez de cette riposte, cette parade ?
Bah, il n'y a jamais de bon moment pour dénoncer des violences sexuelles. C'est ça la réalité. Et que, en fait, jamais personne n'est prêt à les entendre. Et quand ça arrive, on essaie toujours de trouver de mauvaises excuses ou de faux prétextes. Voilà, c'est ça, moi, que ça me fait penser de tout. Moi, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, mais il ne faut pas le dire maintenant, il ne faut pas le dire comme ça. » Alors, moi, la bonne manière de faire pour dénoncer des violences, je ne connais pas. En fait, il n'y en a pas. Hein. Il faut arrêter de se croire ça. Il n'y a pas de petit livret de comment bien dénoncer des violences sexuelles. Et il y a toujours...
Ah, de nouveaux soucis Skype. On va rétablir la connexion. Alors, une autre parade, Justine, du même ordre, c'est l'injonction de donner des noms.
Oui, avec... En illustration aussi ces derniers jours, le débat par presse interposée entre la coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cécile Duflot, et le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. On écoute leur échange.
Mais ce que je veux dire, c'est que des Denis Baupin, en fait, il y en a beaucoup, il y en a aussi beaucoup à l'Assemblée. Et donc, il faut que tout le monde fasse ce travail.
Vous me dites que Cécile Duflot a dit qu'il y a beaucoup de Denis Baupin. Mais alors là, je vais être aussi très clair. Si elle a dit ça, ça veut dire qu'elle sait des choses. Elle doit le dire. Si on fait peser des menaces, ou si on soupçonne des gens, il faut qu'on soit maintenant très clair. Ça a été dit, fin de l'omerta. Donc si Cécile Duflot sait des choses, il faut qu'elle le dise.
Alors c'est vrai que là, on est aujourd'hui dans une situation un peu étrange, dans laquelle, alors, Duflot n'est pas journaliste, elle est responsable politique, coprésidente du groupe des Verts à l'Assemblée. Il y a beaucoup de Denis Baupin à l'Assemblée, c'est quand même une accusation vague, certes, mais grave.
Donc, elle a dit, elle s'en a expliqué hier, elle dit qu'elle va aller voir le déontologue de l'Assemblée nationale pour discuter justement, y compris des alertes qu'elle a reçues. Par ailleurs, sur la séquence précédente, elle a annoncé hier qu'elle portait plainte en diffamation contre Éric Zemmour sur l'accusation qui l'a portée. Mais elle dit d'aller voir le déontologue de l'Assemblée. Parce que moi, on pourrait renverser la question et demander à Stéphane Le Foll, mais lui, ne sait-il vraiment rien ? N'a-t-il jamais vraiment assisté à aucune scène ?
En tout cas, il dit pas. Non, mais c'est autre chose à partir du moment où on lance une accusation générale.
Enfin... Non, mais lancer une accusation générale, dire il y a d'autres Denis Baupin ou beaucoup de Denis Baupin à l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire être un Denis Baupin, mais en tout cas dire qu'il y a des problèmes.
Harceleur, agresseur.
Voilà. Mais dans ces cas-là, moi, je pense qu'il faut mieux dire les choses comme ça, mais c'est mon avis personnel. Non, mais c'est mon avis personnel parce que ça fait. Voilà, bon. Mais peu importe. Le truc, c'est qu'elle dit quelque chose sur lesquels il y a déjà eu des enquêtes, sur lesquels il y a déjà des enquêtes journalistiques. J'ai encore revu l'autre jour un papier du Figaro sur des témoignages de collaboratrices à l'Assemblée nationale qui racontent du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, des licenciements quand une collaboratrice revient parce qu'elle est enceinte, etc., d'un autre homme que du député. Enfin, voilà,
et nous, en préparant l'émission, j'ai retrouvé aussi un article de 2011 très très similaire dans ces termes, notamment à la tribune que vous avez publiée l'année dernière sur le machisme ordinaire à l'Assemblée nationale.
Donc on sait quand même que c'est quelque chose qui est très très problématique à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas besoin d'aller voir beaucoup de collaborateurs pour le savoir.
Enfin, le machisme est une chose.
Je parle, il y a des témoignages. Il y a un documentaire qui a été fait dans la foulée de l'affaire DSK où, par exemple, Martine Billard raconte que quand elle était députée.
Martine Billard, coprésidente du Front de Gauche.
Du parti de gauche.
Du parti de gauche, pardon.
Ex-coprésidente, d'ailleurs, je crois. Peu importe. Enfin, bref.
responsable.
Front de gauche, ancienne Vert, raconte que quand elle était députée, elle a été agressée sexuellement dans à l'Assemblée nationale. Je veux dire, des gens qui ont dit des choses, qui ont expliqué des choses, il y en a quand même eu beaucoup. À un moment, il y a aussi une nécessité de dire on accuse largement, mais c'est un problème large, tout le monde le sait, et il ne se passe pas toujours grand-chose. Au Parti socialiste, il n'y a aucune procédure spécifique qui a été mise en place après les affaires qui ont touché des élus socialistes. Donc on ne va pas non plus renverser de dire en fait c'est la faute de Cécile Duflot, alors que Stéphane Le Foll ne s'est jamais exprimé sur ces sujets, et je ne sais pas, à ma connaissance, s'il a poussé la moindre mesure, la procédure interne, pour que ces agissements cessent.
Alors, on commençait tout à l'heure à poser la question, et on va terminer par là, de savoir si, au fond, les mentalités bougent, voilà, au fil des affaires successives. Alors, pour poser la question, deux extraits de télévision.
Oui, l'un datant d'il y a quelques années, l'autre beaucoup plus récent. Le premier date de 2011, il concerne Patrick Balkany, le député des Hauts-de-Seine et maire de Levallois. En 2010, il avait été accusé par son ex-suppléante Marie-Claire Restoux de lui avoir fait, je cite, des avances récurrentes, alors qu'elle lui avait fait part à plusieurs reprises de son refus. Elle expliquait aussi à l'époque qu'il avait, je cite, la main baladeuse, même si elle, personnellement, n'avait pas été concernée. Donc ça, c'est en 2010. En 2011, M6 interroge Balkany. On précise que ça se passait quelques semaines avant la révélation de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Et à l'époque, Balkany développait une ligne de défense assez particulière.
Marie-Claire Restoux a même décidé de renoncer à son poste de suppléante à cause de ce différend avec Patrick Balkany. De son côté, le maire de Levallois-Perret se dit victime d'un complot politique.
Ça va bien.
Selon lui, il n'aurait jamais fait d'avance à sa suppléante.
Je trouve ça un peu triste.
Donc c'est faux, d'après vous, ce qu'elle raconte ?
Oui, c'est totalement faux. C'est peut-être parce que je n'en ai pas fait, justement.
Croyez ?
Je pense.
Pourquoi est-ce qu'elle vous accuse, alors, d'après vous ?
Elle m'a accusé de rien. Elle m'a accusé de rien. C'est vraiment pas mon type. Voilà. Hein ? Bon. Moi, j'aime les grandes comme vous.
Voilà, c'était pas son type. C'était en 2011, donc avant la révélation de l'affaire DSK.
Mais l'émission diffusée après.
Émission diffusée après, mais toujours est-il que lui s'exprimait avant. L'affaire DSK passe par là. Où en est-on aujourd'hui ? Eh ben, un documentaire diffusé sur Canal+, cette fois en janvier 2016, qui s'appelait Macho Politico, qui mettait en scène Cyril Eldin, un comédien de la chaîne habitué à aller interroger des politiques. Eldin, il demandait au sénateur de Paris, Pierre Charron, comment il voyait les choses évoluer. La réponse n'était pas forcément beaucoup plus rassurante.
Est-ce que vous avez remarqué chez vos collègues, puisque vous avez découvert petit à petit l'apparition des femmes, des réflexes encore de, non pas d'humour graveleux, mais de réflexions sexistes, d'humour concernant plus...
Non, la dernière fois qu'il y a eu une réflexion considérée comme sexiste, c'était lorsque Madame Duflot est arrivée en robe, à pois, et qu'il y a 2-3 députés à droite qui ont... fait des compliments qui n'étaient pas considérés par elle comme des compliments.
Oui. Voilà. Vous considériez que c'en était, justement ?
Est-ce que c'est très grave ? Je ne sais
pas. Est-ce que c'est très grave ? Ben si, c'est quand même plus parler... on ne fait jamais tellement de réflexions sur les garçons.
Si les filles me sifflaient dans la rue, ça me va bien.
Ah, vous êtes content ?
Ah oui.
Pour vous, c'est un hommage quand on siffle des filles, quand on rend hommage justement à leur façon de s'habiller ?
C'est ce que disait Audiard dans un de ses films, d'ailleurs.
Il disait...
Tant que tu seras sifflé dans la rue par les ouvriers en bâtiment, c'est bon signe.
Elle était très belle, d'ailleurs, Madame Duflot, ce jour-là. Elle avait une très belle robe, elle était tout à fait souriante et sémillante.
Moi, j'aime les jolies femmes avec des robes. Elle était en robe, je la trouve mieux en robe qu'avec un blue jean.
Alors, là encore, bon, pour essayer de voir si les choses bougent, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Verre à moitié vide, ils peuvent encore dire ce genre de choses devant une caméra. Verre à moitié plein, ça choque. Alors que ça n'aurait pas forcément choqué il y a 10 ans ou il y a 15 ans les mêmes propos. Je ne sais pas si, voilà, je soumets ce...
Et vers à moitié plein, Canal+, il consacre un documentaire, diffusé en première partie de soirée, du documentaire dont Cyril Eldin explique qu'il a commencé à le tourner après la tribune Les Pattes dans Libération en mai 2015.
Alors, ça bouge pas assez vite
Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que le shaming, c'est-à-dire quand on raconte et direct sur les réseaux sociaux, etc., fonctionne. Parce que bon, pas
voilà, shaming, ça veut dire
de donner la honte,
mettre la honte,
voilà, renverser le truc. le ridiculiser, voilà. De fait, Lelouch, qui après l'affaire, les révélations sur Baupin, dit « je commande pas ces affaires de bonne femme ».
Pierre Lelouch, député
LR. Député LR de Paris. Et d'ailleurs, je crois voilà, que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de saillie. C'est aujourd'hui, tout de suite, il dit ça. Voilà, il y a plein de réactions, etc. Alors, ça n'est que les réseaux sociaux, c'est un petit monde, faut pas non plus exagérer. Mais de fait, je pense quand même que ça les retient davantage.
Réponse mitigée. Moi, je pense que effectivement, ça bouge et effectivement, ça passe plus. Enfin, c'est juste sordide d'entendre ce genre de choses. Bon, je peux pas parler en général, mais dans l'univers politique, strictement politique, à la fois, ça devient de moins en moins tolérable, toléré. En même temps, on peut espérer qu'avec la parité, voilà, l'arrivée de plus de femmes, c'est un univers qui est pas féminisé. Donc, on pourrait essayer de faire progresser les choses. Et on peut l'espérer. Là où je m'inquiète un petit peu, c'est qu'il y a eu de très, très gros travaux qui ont été réalisés par des équipes de politistes. Il y a un ouvrage, notamment, qui s'appelle « Sexe, genre et politique » été dirigé par Catherine Achin, Frédéric Matonti, Delphine Dulon, voilà, d'autres chercheuses, et qui explique que même quand on essaie de prendre des mesures vertueuses, comme la loi sur la parité, même si elle a fait débat, il y a toujours un espèce d'effet backlash, c'est-à-dire de révolution un peu conservatrice, on l'a appelé comme ça, parce que tant que le rôle, enfin le corps des femmes, les femmes en politique, ça ne va jamais. C'est toujours trop. Pas assez. Bon. Et du coup, comme elles-mêmes ont envie de faire, et je crois que ça s'est dit hier pendant le live de Mediapart, moi j'ai envie qu'on me voie comme une politique avant de me voir comme une femme. Mais tant que le rôle politique reste normé, masculin, que les femmes seront en situation d'en prendre en partie les codes pour s'imposer, y compris pour se protéger.
Qu'est-ce que ça voudrait dire d'énormer le rôle politique ?
Ben, ça veut dire que...
Par exemple, très concrètement...
Très concrètement, ne plus associer, et il me semble que c'est le fond du problème, puissance sexuelle et puissance politique. C'est un binôme qui fonctionne toujours.
Dénormer le rôle politique, ça voudrait dire quoi, par exemple, dans une élection interne, dans un parti, dans un débat, ça pourrait se traduire comment ?
Ben, par exemple, accepter que les femmes fassent de grandes carrières politiques alors qu'elles ont une toute petite voix, comme ça, toute friable, qu'elles ne font pas de grands effets de manche, qu'elles ne montent pas au créneau dans les débats.
Sur le papier, rien ne s'y oppose. Là. Mais, par exemple, chez les Verts, je veux dire, il y a eu 3 secrétaires nationales des Verts successives, en comptant Dominique Voynet il y a longtemps, ouais, qui ont été des femmes.
Donc... Mais qu'est-ce qu'on disait de Dominique Voynet ? Qu'elle incarnait le rôle comme un homme, que c'était une femme phallique, que c'était Madame le ministre. Je continue. C'est quoi le premier surnom ? Cécile Duflot, elle a 2 surnoms en interne. Quand elle rentre dans le parti, c'est la petite Cécile, sous-entendu la petite qui va monter. Et quand elle est montée, on appelle la patronne. C'est pas une figure phallique, ça, la patronne. Bon, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont.
Quel aurait été un surnom dégenré Quel aurait été un surnom dégenré acceptable
pour était secrétaire nationale. Je pense qu'il n'y a pas besoin de surnom. Il n'y a pas besoin de. Bon, oui. Voilà. Enfin,
mais c'est pas le surnom des journalistes, hein, c'est le surnom en interne.
En interne, c'est en interne. On est chez les Verts.
On dit ça aussi chez les mecs. On dit le patron du parti, etc. Enfin, je veux dire, on entend. Ça aussi,
oui,
hein.
mais c'est bien la preuve qu'on essaie d'aligner et que les femmes.
Mais il n'y a pas homme politique qui est appelé le patron, puisque ce sont tous des patrons en puissance, je pense.
Ou le petit machin qui va monter. En tout cas, non. Sérieusement, il y a une vraie difficulté qui est que quand un des effets de l'introduction de la loi de la parité, ça a été qu'il y a eu, je caricature, mais en gros, 2 sortes de femmes. Il y a les femmes qui ont joué d'être tout à fait dégenrée, donc je ne suis plus une femme, je refuse qu'on m'interpelle sur mes enfants, ma vie privée, mon habillement, etc. Je fais de la politique, donc on ne parle que de politique. Ça, c'est. Et puis l'autre comportement à l'autre bout du continuum, ça a été d'essayer de jouer du rôle du genre féminin, la mère, la bonne épouse.
Valérie Pécresse qui demande
voilà,
femme pour
parce
faire
que ça fait sérieux, parce que ça rassure, parce que. Et du coup, les femmes sont elles-mêmes prises dans ce piège de ne pas savoir quel rôle, quel rôle de femme elles doivent jouer quand elles font de la politique. Ça m'inquiète. Aussi un peu plus.
Vous avez continué à travailler sur ces questions d'agression et de harcèlement sexuel chez les écolos. Alors j'ai vu que vous êtes arrivé avec toute une série de documents dont de mystérieux tableaux que j'ai entrevus avec beaucoup d'indiscrétion, mais les journalistes sont curieux. Alors que vous les montriez à Lénaïm Bredou, c'est quoi ces tableaux ?
Ces tableaux, c'est la liste de tous les gens qui ont fait partie des équipes dirigeantes depuis les Verts, depuis que les Verts existent. Et une des raisons pour lesquelles la thèse du complot de Cécile Duflot ne tient pas, c'est que je pense que, alors si l'affaire n'est pas sortie en 2004, vous me permettez de prendre cette date, puisque c'est la date à laquelle je suis sûre, moi, d'avoir entendu des rumeurs, bien le secrétaire qu'il fallait protéger alors, c'était Yann Verling. Puisque l'affaire n'est pas sortie, c'était Yann Verling qui était secrétaire de 2004 à
2006. Et donc, alors, je ne comprends pas, là, le sous-texte m'échappe, là.
Mais, non, mais en
l'occurrence... Ça veut dire quoi ?
Ben, l'idée, il faut renverser l'argument, c'est-à-dire si l'affaire sort maintenant parce que c'est un complot de Cécile Duflot contre la secrétaire, l'ancienne secrétaire nationale Emmanuelle Cosse qui est allée au gouvernement alors que les Verts ne voulaient pas, alors il faut aller tirer le raisonnement, puisqu'il est absurde, disons-le, il est presque obscène, il est absurde à tout le moins, tirons-le jusqu'au bout. Alors si l'affaire n'est pas sortie, c'est qu'il fallait donc protéger quelqu'un, puisque si elle sort maintenant, c'est pour en détruire un autre. Alors je me demande juste, avec un peu de malice, pourquoi il a fallu protéger Yann Verling en 2004. Voilà.
D'accord, c'est pour déconstruire l'argument du complot du flottiste.
Oui, enfin, je pense que là, autant je suis la première à dire que forcer des gens, des femmes à parler, il n'en est évidemment pas question, mais que je ne crois pas une seule seconde que dans le Parti Vert. Alors, les niveaux d'information sont inégaux, mais on sait très bien dans les couloirs aller prendre un tel ou un tel dans un congrès pour lui demander de venir sur sa liste, sur sa motion, etc. Moi, ce qui m'étonne le plus, je reproche rien à personne. Je m'étonne. Je m'étonne que ceux qui savaient, celles et ceux qui savaient, puisqu'il y en a voilà, dans le cercle de ce qu'on appelle dans un parti politique les initiés, ceux qui sont justement dans le petit milieu de l'entre-soi, sauf erreur de ma part, personne chez les Verts n'a été voir Denis Baupin en lui disant dans un couloir, écoute Denis, là, ça va plus être possible. En plus, on est les Verts, donc voilà. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire, on n'arrête pas de dire, les femmes se taisent pour protéger l'entreprise par loyauté partisane. Pourquoi pas ? Très bien, renversons encore l'argument. Par loyauté partisane, on aurait pu imaginer que quelqu'un dise à Denis, tu vas, si tu continues, ça va se savoir, et tu vas détruire l'entreprise partisane, et tu es dedans.
Mais on va peut-être apprendre un jour que quelqu'un a essayé, mais enfin, on n'en sait rien.
À tout le moins, ça n'a pas été efficace, c'est-à-dire, voilà, l'institution partisane n'a pas...
Ça n'a pas marché. Juste pour terminer, donc, on a parlé du harcèlement et des agressions sexuelles au sein d'un parti, les Verts, on a parlé de ces phénomènes entre politiques et journalistes. Alors, il peut aussi arriver que se produisent ces phénomènes dans une rédaction entre des journalistes. Et juste avant cette émission, on a parlé ensemble d'une série de tweets que je n'avais pas vue, mais que vous m'avez signalé, Justine, une série de tweets de la journaliste de France Inter, Nathalie Fontrelle, qui publiquement, sur son compte Twitter, a dit, sans donner de précision, qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel dans sa rédaction. Nathalie Fontrelle, France Inter, coproducteur de cette enquête que vous avez faite. Vous allez chercher à en savoir plus ?
Écoute, on a discuté au moment de l'enquête avec plusieurs personnes qui travaillent sur les questions de harcèlement sexuel. À un moment, elles disent, il y a combien de femmes qui travaillent à Mediapart ? Je réponds, je ne sais pas, à peu près 30. Je pense que c'est un peu plus, je vais donner un mauvais chiffre, on va m'en vouloir, mais ce n'est pas grave, disons 30. Et ils me disent, il y a 6 cas. Je pourrais vous poser la même question sur Arrêt sur Image. C'est une femme sur 5. Enfin, les estimations d'une étude d'une défenseur de droit.
On n'a pas 5 femmes.
Voilà, je sais. Voilà, c'est une.
C'est pas le problème.
Voilà. Bah si, statistiquement.
C'est une femme sur 5. Donc, il n'y a absolument aucune raison que dans les rédactions, que les rédactions soient en dehors du monde. C'est-à-dire, comme les partis politiques ne le sont pas, les rédactions.
Alors, vous savez des choses sur la rédaction de Mediapart ?
Non, absolument pas. Je sais pas du tout le sujet. Mais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible que cette question n'existe pas comme elle existe partout dans la société.
On voit un des tweets de Nathalie Fontrelle, là, et les filles. Il n'y a pas que lui. Moi, harcelé pendant des années à Radio France, dans l'indifférence générale, tout le monde savait. Nathalie Fontrelle, spécialiste de l'environnement à France Inter. Est-ce que ce serait aussi un sujet d'enquête légitime ?
Bien sûr, c'est un sujet d'enquête légitime. Comme dans les médias, comme... Franchement, moi, je pense que ce serait assez intéressant de savoir comment ça se passe dans les rédactions, où il y a des rapports de pouvoir assez lourds, où des fois on travaille tard le soir. Enfin, tout ça, ce sont des éléments assez propices à ce genre de choses. Je pense que ce serait un sujet assez intéressant.
Merci. Alors Dominique Trichet-Allaire nous a requitté. Je crois que sa patrie a définitivement rendu l'âme. En tout cas, qu'elle soit remerciée d'avoir participé à l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.